Gardarem, la terre et la mer. Gardarem, la terre et la mer, gardons, préservons la terre et la mer en occitan. C'est l'intitulé de 10 jours de rencontres internationales de paysans et de pêcheurs contre l'accaparement des terres, des ressources naturelles et la destruction des territoires. 10 jours de rencontres du 10 au 17 juillet 2011 à Nantes et sur le Larzac, organisé par l'Association pour l'aménagement du Larzac, la Confédération paysanne de l'Aveyron, l'Alliance internationale Terre citoyenne, l'Association des populations des montagnes du monde, l'ACTER améliorer la gouvernance de l'eau, de la terre et des ressources naturelles, avec pour partenaire la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme et le Forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la mer. Gardarem, la terre et la mer, ce sera aussi le titre d'une série de 10 émissions qui vous sont proposées par Radio Larzac, Radio Pays d'Hérault, Fréquence Paris Pluriel, L'Écho des Garrigues, Radio Temps Rodez, Radio Transparence Foix, Radio Grésivaudan Chambéry Grenoble, Radio Divergence Montpellier, Radio Albigès, Radio Fil de l'Eau dans le Gers et 48 FM en Lozère. Au fil de ces émissions, nous vous proposerons de rencontrer, par l'intermédiaire de l'outil radio, des acteurs, des militants venus des quatre coins de la planète et soucieux d'organiser la prise de conscience, la résistance à ces questions d'accaparement des terres. Pour cette première émission, nous vous proposons de découvrir, nous c'est Robert Martin et moi-même Catherine Pimenta, Radio Larzac, Robert Martin pour Radio Pays d'Hérault. Nous vous proposons de découvrir les principaux initiateurs de ces rencontres. Nous avons donc parmi nous Pierre Burguer de l'Association pour l'aménagement du Larzac, Christian Roquerolles pour la Confédération paysanne de l'Aveyron, Pierre Vuorin pour l'Alliance internationale Terre citoyenne, Jean Bourliot pour l'Association des populations des montagnes du monde, avec son collègue Pierre Gondard. Et donc nous n'aurons pas ce soir l'ACTER qui n'est pas encore présente sur ces rencontres. Bonjour à tous.
Bonjour.
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 Gardarem, la terre à la mer, comme je l'ai souligné en occitan. Et le lieu choisi pour ces rencontres n'est pas un hasard, puisque nous sommes ici à Nantes, sur le Larzac, dans l'Aveyron, où cette année 2011 est un anniversaire. L'anniversaire d'une lutte contre l'accaparement des terres, aussi, mais par l'armée, puisqu'en 1971, Pierre Burguer, donc pour la PAL, en 1971, l'État a voulu s'accaparer des terres, finalement, pour étendre le camp militaire qui était présent à la cavalerie sur le Larzac.
Oui. Tout à fait. L'État a voulu étendre le camp militaire qui existait depuis 1902, qui faisait 3000 hectares, et le porter à 17000 hectares en 71. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour nous, le problème était un peu choquant, parce que nous avons appris la décision officiellement par la télévision, et nous nous sommes sentis humiliés, méprisés au plus haut point. Et c'est à partir de là que s'est organisée la lutte, qu'a commencé l'organisation de la lutte, et que petit à petit, c'est vrai qu'on a réussi, disons, après 10 ans de lutte, donc à gagner la totalité de nos revendications, certes sur l'élection de François Mitterrand, mais comme tout homme politique, François Mitterrand avait mesuré le poids politique du Larzac, d'ailleurs ils nous l'ont avoué après, plusieurs ministres nous l'ont avoué, que c'était une décision où ils avaient pesé le poids politique et donc que c'était jouable pour l'élection présidentielle. Si aujourd'hui le Larzac est partie prenante et la PAL en tant qu'association est partie prenante de ce rassemblement, de ce colloque plus exactement, C'est tout simplement parce que les gens aujourd'hui, par le biais des accaparements de terres qui se passent partout dans le monde, sont victimes du même problème que nous. À une différence qui est quand même fondamentale, c'est que nous, on nous a mis devant, comme j'ai dit tout à l'heure, cette décision arbitraire, alors qu'aujourd'hui, ça se passe d'une façon beaucoup plus insidieuse partout dans le monde pour récupérer des terres pour de l'agriculture productiviste industrielle qui ne tient plus compte des hommes, mais d'une façon où c'est que l'argent qui aujourd'hui est le vecteur de ces décisions. On dit aux gens, vous ne pouvez pas vous en sortir, mais écoutez, on va vous aider, vous nous vendez les terres et on va vous garder comme... Enfin, ça ne se passe pas pour tout pareil, pour les mines, ce n'est pas la même chose, mais je parle au niveau de l'agriculture industrielle. On propose aux gens de les employer comme salariés, tout en leur donnant de l'argent pour qu'ils cèdent leurs terres à des multinationales. Et donc, il y a vraiment quand même... c'est une spoliation, moi j'appelle plutôt spoliation de terres, qui est faite par les États, par les multinationales. Et c'est pour ça que le Larzac se sent totalement concerné par ce phénomène qui prend une ampleur beaucoup trop importante et qui mérite qu'on se mobilise énormément et qu'on ouvre les yeux un peu sur ce qui se passe dans le monde, qu'on sorte de notre précaré pour voir qu'il y a des problèmes colossaux où les populations sont obligées de faire face et peut-être de trouver des moyens de former les gens. Et je crois que c'est aussi le rôle de ce colloque, de former des gens pour qu'ils prennent conscience de ces dangers qu'il y a aujourd'hui.
Bien, donc c'est bien l'objectif de ces rencontres, hein, de mettre ensemble de façon internationale des acteurs de ces problématiques-là. Pierre Vuarin, organisateur un petit peu de ces rencontres internationales, pouvez-vous nous dresser un petit peu le tableau de la semaine, les gens qui sont invités, pourquoi on fera présenter votre association et pourquoi elle est partie prenante dans l'organisation de ces rencontres internationales?
L'Alliance internationale intercitoyenne, c'est une alliance. C'est une alliance de mouvements de populations, comme la population les populations de montagne du monde, mais aussi de pêcheurs, le Forum mondial des pêcheurs artisanaux, d'ONG, de gens qui travaillent sur des thèmes de la gestion des ressources naturelles, du développement de l'alimentation durable, mais aussi, de fait, effectivement, on s'est aperçu que ces dernières années, il y avait un risque majeur sur la sécurité alimentaire des populations, sur la souveraineté alimentaire des populations, avec la spoliation sur les ressources naturelles faites par des grands groupes multinationaux, mais aussi par les nationaux, et aussi l'accaparement des terres agricoles. Et donc ça, c'est le témoignage de tous nos partenaires de l'Alliance internationale. Il y a aussi les pêcheurs.
Quelle réalité ça recouvre, ce phénomène d'accaparement de terres?
À l'heure actuelle, c'est même la Banque mondiale qui dit qu'en 2 ans, il y a 56 millions d'hectares qui ont été achetés par des multinationales ou par des privés au niveau national. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a des phénomènes d'accaparement par les bourgeoisies qui, après avoir mis l'argent dans les poches, achètent de la terre agricole. Il y a Kolyang Pelébélé du Tchad qui pourra en témoigner clairement, ou d'autres acteurs aussi. Voilà. Et par ailleurs, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est tout l'accaparement des ressources halieutiques. Et ça se fait depuis des années. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, il y avait des communautés de pêcheurs qui pêchaient sur les zones côtières. On a développé la pêche industrielle. On a développé des droits de pêche avec des ventes par les États à d'autres grandes compagnies pour avoir aussi de l'argent dans les caisses. Et ces pêches industrielles ont vraiment aussi spolié, mais aussi dégradé complètement les ressources halieutiques. Et maintenant, il y a beaucoup de pêcheurs qui se retrouvent, des pêcheurs artisanaux qui se retrouvent sans poisson au bord de la mer, enfin, en particulier. Voilà.
Donc on parlait de terre, et qui dit terre dit paysan. Alors Christian Rouquayrols, la Confédération paysanne joue un rôle dans l'organisation et est solidaire de ce type de problématique, je suppose.
Oui, donc la Confédération paysanne de l'Aveyron est partie prenante de ce colloque et de la fin de la partie des 3 jours qui sont publics et se sent très concernée par le thème, bien entendu, puisqu'on fait partie d'un mouvement mondial qui s'appelle la Via Campesina, et on est très au courant de ce qui se passe par cet intermédiaire-là, donc de ce qui se passe dans les pays où le phénomène est le plus important. Il ne faut pas oublier que c'est important chez nous aussi, mais pas de la même manière, j'en parlerai peut-être, mais là-bas, ça prend des proportions, Pierre l'a dit, donc 56 millions d'hectares en à peine 2 ans de spolier, où on a chassé les petits paysans, parce que Pierre dit que de temps en temps, on leur propose de les employer sur les fermes, mais la plupart du temps, 9 sur 10 sont obligés de partir, parce que quand on mécanise ces fermes, il n'y a plus de place pour le nombre de petits paysans qui vivaient avec très très peu de surface, qui arrivaient à s'alimenter et alimenter quelques villageois autour d'eux. Donc ça, c'est un vrai problème humain dramatique qui alimente aussi le phénomène de l'immigration massive, il faut bien en être conscient, qui alimente le phénomène d'agrandissement des mégalopoles en Afrique et ailleurs et en Amérique du Sud, qui sont des villes de plus en plus grandes et de plus en plus ingérables. Et donc tous ces phénomènes-là, à la Confédération paysanne, on est allé à Dakar pour en débattre aussi avec les pays concernés. On a entendu de nombreux témoignages. Et quand Pierre m'a proposé d'organiser ça ici dans la région, sur le Larzac en particulier, dans le cadre des 30 ans et des 40 ans du début de la lutte, des 30 ans de la fin et des 40 ans du début, j'ai tout de suite dit, bah oui, ça me semble intéressant, on va faire ça avec la PAL, avec d'autres acteurs. Et voilà pourquoi on est là et voilà pourquoi la Confédération paysanne est très sensible à ce thème-là, et on sera partie prenante des débats. Et à Via Campesina, il y aura aussi une représentante de Via Campesina donc, qui sera là avec les paysans et les acteurs du monde entier qui viennent par l'intermédiaire de Terres Citoyennes.
Et puis justement, l'association des populations de montagne du monde est là. Bonjour Jean Borlio. Alors, votre implication à vous dans ces rencontres internationales?
Oui, merci. A priori, nous ne sommes pas directement concernés par les questions d'accaparement des terres puisque nous représentons davantage les populations des montagnes. Mais ce sont ces populations des montagnes qui ont été en général et partout marginalisées par d'autres formes d'accaparement qui ont eu lieu dans le temps. N'oublions pas que l'accaparement a lieu sous la forme du colonialisme d'abord, avec par exemple ce qu'on a connu en Amérique latine, les grandes haciendas, et toute la période de lutte qui a permis de justement lutter contre cette forme d'accaparement qui a été la grande période des réformes agraires. Alors je crois qu'il est intéressant de constater que malgré ce qu'on croyait maintenant comme révolu, vient une nouvelle forme d'accaparement des terres qui est beaucoup plus liée maintenant au grand système financier que nous connaissons, qui est en crise, mais qui a toujours cette capacité de spéculer sur des produits sur lesquels on ne pensait pas qu'il y aurait un jour le blé qui serait mis en bourse, les terres qui seraient l'objet de raisonnements financiers, et qui fait que les millions d'hectares dont nous parlons sont achetés par des banques, par des organismes financiers, davantage que par des gens directement concernés par la question agricole. Alors c'est ça qui est tout à fait central. Et les populations des montagnes du monde, enfin les montagnes, disons, sont donc toujours dans cette situation de marginalisation, alors qu'elles sont les premières à pouvoir espérer un jour bénéficier aussi des terres sur lesquelles elles pourraient aussi travailler avec les paysans qui existent. Et donc là, nous avons un phénomène global d'exclusion dans chacun des pays concernés, des paysans dont nous avons parlé, comme des gens des montagnes, qui, eux, en plus, sont soumis à la multiplication des implantations minières, qui se fait aussi sous des formes très, très dures, c'est-à-dire dans lesquelles les communautés ne sont pas du tout consultées ni concernées. Et là, on peut faire la relation assez directe avec, toute proportion gardée, ce qui se passe avec le gaz de schiste dans le
pays. Je crois qu'on en parlera dans la semaine.
Où on peut constater qu'y compris dans un pays comme la France, a priori, avec toutes les protections et régulations des lois, un jour, un maire d'un village comme d'une ville comme Nantes peut apprendre qu'il est l'objet d'une concession minière. Évidemment, c'est le cas général dans beaucoup de pays du monde. Et dans ce cas-là, les communautés sont, dans le même cas que pour l'accaparement, totalement ignorées, voire exclues.
Pour finir le tour de table, Pierre Gondard, toujours de l'Association des populations des montagnes du monde, un petit mot supplémentaire?
Oui, juste un mot sur une forme de spoliation paysanne qu'on évoque peu, qui n'est pas due à des entreprises agricoles qui veulent s'approprier la terre pour faire de l'agriculture, mais bien une démarche écologiste qui vise à faire des réserves naturelles d'où il va falloir exclure les paysans. On a un petit peu l'exemple ici en France avec les parcs nationaux qui excluent les paysans. Et j'ai pu avoir l'expérience en Amérique andine, en Équateur, d'une ONG internationale qui achetait de la terre aux paysans, qui donc envoyait les paysans dans les bidonvilles pour pouvoir s'occuper de conservation de la nature. C'est une forme de spoliation qui, pour certains, peut paraître noble, puisqu'on veut sauver la nature, mais qu'est-ce qui est le plus essentiel ? La nature ou la relation de l'homme avec la nature ?
À Marseille, quand s'éveillent les beaux jours de la belle saison, dans les bacs, on s'embarque pour taquiner le poisson. Les girelles nous appellent comme des sirènes dans la mer. Et l'on jette, quelle fête, l'hameçon dans les flots verts. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des joyeux marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent. Les plus blasés ne s'enlacent jamais. Quand ça pite, 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 quand ça pite à l'hameçon, on retire vite, vite, on retire le poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent. Les plus blasés ne s'enlacent jamais. Quand ça pite, 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 quand ça pite à l'hameçon, on retire vite, vite, on retire le poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais. La tempête qui nous guette n'arrête pas les vrais pescadors. Si la vague fait des blagues, eh ben nous nous pâtissons et c'est tout. Mes pêcheurs vers la terre, lorsque bredouille nous revenons, on s'arrête chez Liette qui nous vend du bon poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des joyeux marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent. Les plus blasés ne s'enlacent jamais. Quand ça pite, 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 quand ça pite à l'hameçon, on retire vite, vite, on retire le poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche? C'est le régal parfait des Marseillais.
Garde à Rem la terre et la mer avec Moussuté, les Jovens, les plaisirs de la pêche, ça tombe bien. Pierre Vuerin, qui, on peut dire que vous êtes l'un des principaux organisateurs avec l'Alliance internationale Terre citoyenne et aussi l'autre casquette Fondation pour le progrès de l'homme, Charles-Léopold Mayer. Quels sont les objectifs de ces rencontres internationales qui ont lieu à Nantes sur les problèmes d'accaparement de terre, des ressources naturelles? Qui va venir et quels sont vos objectifs?
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a Il y a tout d'abord un travail interne. On a une alliance avec beaucoup de mouvements, avec il y a une trentaine de mouvements, 35 mouvements, organisations qui participent à cette alliance, qui sont d'Amérique latine, qui sont d'Afrique, qui sont des mouvements paysans, même des mouvements très importants comme la Coprofam qui réunit toutes les organisations paysannes du Mercosur, par exemple, et puis aussi des mouvements de pêcheurs artisanaux. Il y a 54 pays qui sont membres du Forum mondial des pêcheurs artisanaux, c'est quand même beaucoup. Des ONG, comme je le disais tout à l'heure, qui participent et qui travaillent sur la pêche, qui travaillent sur le commerce international, qui travaillent sur les OGM, qui travaillent sur une veille citoyenne aussi sur les questions de l'alimentation. Donc voilà, c'est toute une myriade de mouvements qui ont déjà travaillé ensemble depuis longtemps. Et donc c'est l'occasion pendant pratiquement 4 jours de voir un peu qu'est-ce que l'on fait chacun sur un certain nombre de thèmes majeurs qui sont importants. On va voir sur ces questions de l'accaparement des terres et spoliation, mais aussi sur la gouvernance alimentaire des villes, c'est-à-dire comment se nourrir dans le futur à partir des territoires qui se trouvent autour des villes. Comment repenser la question alimentaire à partir de l'alimentation des villes qui est structurante au niveau international dans les années à venir. Donc ça, c'est un thème majeur. D'ailleurs, on fera le lien avec aussi les visites à Millau, de voir comment ça se passe pour la précaution sur maintenir des terres agricoles, sur une alimentation plus d'origine biologique, comment avoir des régimes alimentaires plus adaptés, etc. Voilà. Ça, c'est des grands thèmes et on va regarder qu'est-ce qui se passe dans différents pays, dans les différents mouvements, qu'est-ce qu'on fait en termes de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. Donc, essayer de croiser les activités, imaginer des initiatives, des projets, des agendas au niveau international pour avancer ensemble, pour essayer de résoudre un certain nombre de problèmes, pour faire des propositions au niveau national ou aussi au niveau international par rapport à ces problématiques.
Partage d'expérience et mise en commun d'objectifs, c'est à peu près ça ?
C'est tout à fait ça. C'est créer de la confiance. Alors, on fait créer de la confiance entre les gens qui ne se connaissent pas beaucoup, hein, certains, en visitant le terrain, en mettant ensemble aussi nos impressions, nos regards qui sont différents sur la réalité. Puis après, essayer de voir, bon, bah oui, toi, tu fais ça sur les OGM. Ah, ça, c'est intéressant. À telle stratégie. Par exemple, aujourd'hui, on apprenait en visitant, par exemple, sur les gaz de schiste, qu'en Albanie, ils avaient déjà ce problème depuis très longtemps. Bon, bah ça, c'est très intéressant. Alors, on fait des alliances, on fait des convergences, et après, on essaie de voir des propositions. Donc, travailler des propositions.
Est-ce que ce sont les premières rencontres internationales où toutes ces organisations ont déjà travaillé ensemble sur d'autres projets ou des éditions antérieures à celles de cette année ?
C'est-à-dire que, en fait, les ultimes rencontres internationales avec l'Alliance internationale intercitoyenne se sont faites à Nantes il y a 2 ans. Parce qu'on avait l'occasion de faire cette réunion à Nantes il y a 2 ans. Et on pensait cette année le faire en Espagne. Et puis au dernier moment, on s'est dit, oh, Nantes, c'est très bien. Il y a le Larzac, il y a l'occasion de l'anniversaire. Donc, on va les faire au Larzac.
C'est Nantes, capitale mondiale de la contestation paysanne, c'est ça ? Entre les gaz de schiste et...
Et bien voilà, Nantes a une célébrité maintenant qu'elle a acquise avec nos 10 ans de lutte. Et qu'elle a acquise aussi donc, avec le gaz de schiste récemment, bien entendu, et qu'on continue avec ces rencontres qui vont porter tous ces débats sur tous ces problèmes, bien entendu.
Oui, et alors donc, nous, on va faire des propositions. Les mouvements sont déjà porteurs de propositions en matière de spoliation, en matière aussi de... On va travailler sur un thème très important, sur la question de la spéculation en matière de marché agricole. Nous, on trouve ça insupportable qu'à l'heure actuelle, on puisse spéculer, on puisse jouer sur la baisse des prix ou l'augmentation des prix au niveau international. Ça, c'est un thème sur lequel on va travailler pendant la semaine, par exemple.
Pour faire des propositions.
Pour faire des propositions au niveau international, c'est un thème qui a été débattu au G8 agricole, au G20 agricole il n'y a pas longtemps, mais qui n'a pas trouvé de solution. On a dit, ah, mais on va faire en sorte que les marchés soient un peu plus transparents. Mais à part ça, on n'enlève pas la spéculation, le jeu sur vraiment le fait qu'il y a des gens qui sont en train de jouer sur la baisse des prix ou sur l'augmentation des prix. C'est insupportable et c'est dangereux pour les marchés eux-mêmes, pour une stabilité des marchés. Ça remet en cause, je dirais, les systèmes alimentaires, les systèmes agricoles, les économies en tant que telles et l'alimentation de millions et de millions de personnes.
Ce qu'il faut préciser, Pierre Verin, peut-être que certaines de ces associations travaillent avec, par exemple, la FAO et sont en mesure aussi de faire des propositions concrètes. Christian Auquerol, peut-être par la Via Campesina.
Oui,
bah,
Via Campesina, par exemple, donc, qui est un mouvement mondial qui représente quand même 170 millions d'adhérents, de paysans dans pas mal de pays et surtout des pays pauvres, est reconnu donc, comme interlocuteur à la FAO et participe à des discussions. Je ne saurais pas dire lesquels exactement, parce que moi-même, je n'y ai pas participé, mais je connais des gens qui y participent. Et effectivement, il y a un travail qui est fait sur tous ces thèmes-là.
On peut juste vite faire rappeler ce que c'est que la FAO.
C'est l'acronyme, je ne saurais pas dire.
C'est l'Organisation mondiale de l'alimentation.
Qui est en lien avec l'ONU, avec l'Organisation des Nations Unies.
C'est en anglais.
Pierre Bourliot, pardon.
Jean. Food Agriculture Organization.
Voilà, c'est pour ça que...
Donc c'est l'agriculture et l'alimentation. Et donc c'est l'organisme international qui est chargé de suivre la situation agricole et alimentaire dans le monde, de faire des propositions pour résoudre les problèmes agricoles et alimentaires. Donc on pourrait croire qu'elle a un rôle extrêmement puissant dans le système international. De fait, elle a un rôle plutôt de proposition que d'exécution. Donc elle a un très grand pouvoir de suivi et d'information. Et à ce titre-là, elle a aussi un système de consultation qui fait que des organisations comme Via Campesina entrent dans le comité en particulier, ce comité chargé des questions foncières plus spécifiquement. Et alors effectivement, moi je renforce ce que dit Pierre de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes dans une situation tout à fait inédite. J'ai dit tout avant un peu ce qui s'était passé, la situation dans laquelle nous étions. C'est-à-dire que effectivement, les marchés maintenant sont tels que des produits comme le blé sont des produits en bourse, donc qui échappent totalement dans la fixation du prix. Dans la relation entre la production et la consommation échappe complètement au jeu de la bourse. Et donc c'est un jeu totalement très financier, spéculatif, qui fait que les prix n'ont plus de relation avec l'état de la production et l'état de la consommation. Et ce phénomène qui est le vrai pour le blé va devenir vrai pour beaucoup de produits, et en particulier ceux qui se profilent pour le futur, puisque nous savons que dans le futur, et c'est ça l'anticipation des financiers et du système financier international, on sait que la situation alimentaire va se tendre, donc elle va devenir de plus en plus difficile avec l'augmentation de la population. Et ce sont eux-mêmes qui s'emparent maintenant du sujet de la sécurité alimentaire et de l'approvisionnement alimentaire pour en faire un produit spéculatif.
Pierre Burger, de l'Association pour l'aménagement du Larzac.
Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est de la spéculation foncière sur les produits de consommation courante pour tous les citoyens. C'est qu'en fait, on fait produire le paysan de plus en plus bon marché. C'est sur son dos et c'est sur le dos du consommateur. Et entre, il y a tous ces intermédiaires qui, en fait, bon, d'une part les boursiers d'abord, les financiers, qui jouent là-dessus. On est sur une économie totalement virtuelle. C'est-à-dire que quand on pense qu'aujourd'hui des agriculteurs vendent l'automne après la moisson de cette année, vont vendre la récolte de l'an prochain. C'est scandaleux. Et on a complètement dévoyé le métier d'agriculteur dans ce sens qu'on n'est plus des producteurs, on ne nous demande plus de produire quelque chose. On veut un produit à tel prix, le reste, on s'en fout. Débrouillez-vous. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans l'installation des jeunes agriculteurs aussi, et dans l'installation des moins jeunes, dans l'activité des moins jeunes, eh bien, on leur fait comprendre, et les banquiers sont en tête pour ça, écoutez, il faut peut-être que vous arrêtiez. On ne rémunère plus les gens à leur juste prix, un produit, à cause de cette spéculation boursière. Et c'est ça qui est choquant.
C'est choquant, mais pas étonnant. Je veux dire, le phénomène n'est pas tombé du ciel tout d'un coup. Petit à petit, depuis des dizaines d'années, les politiques publiques, l'Europe a fait en sorte, et dernièrement avec le traité européen, que tout est marchandisable, tout est achetable et tout est vendable. Hein, et qu'il faudrait peut-être revenir un petit peu à la raison. Et quand il s'agit d'alimentation... Parce que c'est, on parle là, quand on parle de la terre, on parle de la mer et on parle de paysans et de pêcheurs. C'est la gageure qu'on doit tous relever collectivement. C'est qu'enfin, les uns ne meurent pas de faim de trop manger et que les autres ne meurent pas de faim de pas assez manger. Et que la problématique et ce qui nous est, et le défi qui nous est lancé à tous, organisations, syndicats, citoyens, c'est de faire en sorte comment on va pouvoir alimenter de façon avec de la qualité l'ensemble des citoyens de cette planète. C'est bien ça. Et on parlait de la FAO, mais si vous êtes là tous et si on organise des rencontres internationales, c'est bien qu'on ne peut plus faire confiance, peut-être. Aux autorités publiques, ils ont montré que, sur ce plan-là en tout cas, ils ont oublié que l'être humain était au centre de ces problématiques et que, pour eux, l'argent vaut mieux que la santé des citoyens.
Vous avez dit tout à fait le mot juste. Effectivement, à une époque, c'était quand même l'homme qui était la priorité. Bon, c'était l'évolution un peu normale et ça devrait être l'objectif permanent, c'est-à-dire que d'abord, on pense à l'homme. Or, aujourd'hui, c'est l'argent qui a pris la place de l'homme. Et je crois que les dirigeants du monde doivent quand même réfléchir à une chose qui est très dangereuse aujourd'hui. Il y a un proverbe qui dit « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Et qu'on n'oublie pas ça, que quand les gens en auront assez de mourir, de voir que chez eux, on meurt de faim, et comme vous avez dit, et qu'il y en a d'autres qui meurent de trop manger, eh bien les gens, ils n'en pourront plus, et il n'y aura plus rien pour les calmer, si ce n'est de changer notre système, parce que ce système-là, de toute façon, est voué. On peut bien imaginer, ce n'est pas compliqué, comment... une planète, la planète Terre, peut-elle se permettre de se développer dans les mettons rien que les 50 dernières années, comme elle l'a fait, et continuer pendant des décennies encore après. Si on ne mesure pas aujourd'hui ce danger, je crois qu'on va tout droit à la catastrophe.
Par rapport à ce que vous dites les uns et les autres, est-ce que ces organisations qui seront présentes toute cette semaine lors de ces rencontres Gardarem, la Terre et la Mer, est-ce que certaines d'entre elles représentent, il y en a qui sont plus des organisations non gouvernementales, je dirais peut-être plus institutionnelles, mais d'autres représentent des réalités concrètes de masse, enfin des organisations de masse, de gens qui se mobilisent, qui sont vraiment dans une lutte, et lesquelles, et sur quelle lutte ?
Par exemple, je parlais tout à l'heure du Tchad. Bon, il y a l'Organisation nationale des producteurs ruraux du Tchad, hein, qui représente, c'est la seule organisation des paysans et qui représente des producteurs, des ruraux. Qui représente, je ne sais pas le nombre exact, mais par exemple, je pense à la CONTAG au Brésil, c'est 10 millions de membres. Hein, c'est pas rien. Sur le coprofam, sur l'ensemble du Mercosur, je ne sais pas combien, c'est de millions de paysans. Sur les organisations de l'Équateur, c'est aussi la CONFUASC, hein, est une grande organisation de paysans. Les pêcheurs, 54 pays avec des organisations de pêcheurs dans ces pays. Ce sont des milliers, peut-être des millions de personnes, enfin pour les pêcheurs en tout cas. Donc c'est des organisations importantes. Il y a à côté de ça, il y a des ONG en tant que telles qui sont plus d'expertise citoyenne. Et je pense que c'est important de ne pas rester simplement à des constats. Hein, c'est bien ce que dit Pierre, je partage complètement le fait de dire il y a l'homme qu'il faut qu'il soit au centre, etc. Donc, on défend ses valeurs très fortement, mais aussi on veut apporter des éléments de proposition. Et par exemple, sur le marché agricole, on va apporter une proposition que l'on va soumettre d'une part à la FAO, mais aussi aux autres responsables politiques. Et on va porter l'année prochaine aussi à Rio plus 20, qui est un grand rassemblement en 2012. C'est le fait de dire c'est pas possible que, par exemple, les céréales soient vendues 60 fois avant d'arriver à destination. ça a été dit plusieurs fois dans certains reportages, ça c'est pas possible. Il faut interdire, je veux dire, le fait que interdire les acteurs qui ne sont pas vraiment des négociants, qui sont là simplement pour jouer. Ça c'est possible. En 1835, on a fait passer en France, on a changé la législation, on a permis le fait de jouer. Mais maintenant, on devrait interdire de jouer. Et ça, c'est une proposition très, très, très technique qu'on est en train de travailler, qu'on va proposer à l'opinion publique, aux acteurs, etc.
Pierre Gondard, de l'Association pour les montagnes du monde.
L'Association des populations des montagnes du monde. Pourquoi une association internationale de paysans de montagne, de citoyens, de citadins aussi, de montagne, a intérêt à être ici et plaisir à être sur le Larzac? C'est la réponse à la question que vous posiez tout à l'heure. Je crois qu'il y a deux niveaux de réponse. D'une part, c'est l'anniversaire de l'arrêt d'une spoliation qui était en marche pour l'extension du camp militaire. C'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est qu'on a ici, sur le Larzac, grâce à vous, un modèle qui est intéressant. À l'époque, à l'heure où, face justement à la financiarisation dont on parlait tout à l'heure, face à ce que coûte le foncier pour qu'un agriculteur puisse s'installer, on a un modèle super original que vous avez mis en place pour lutter contre l'extension du camp militaire du Larzac, qui est cette société civile des terres du Larzac, qui est un modèle extraordinairement positif d'une coopérative qui s'est fondée et qui loue ses terres à des baux, avec des baux à longue durée, des baux de vie, qui font que les repreneurs de terres sont assurés d'avoir leur exploitation jusqu'à la fin de leur carrière, et à la fin de leur carrière, ils ne la passent pas systématiquement à leurs enfants, ils s'en vont, et ce sont d'autres personnes qui viennent, qui s'installent et qui ont l'accès à ce foncier. De la même façon, on a visité cet après-midi une exploitation d'un jeune agriculteur qui vient de s'installer et qui, grâce au GFA, a pu avoir accès à 50 hectares, 60 hectares de terres cultivables, ce qui est aussi un modèle extraordinaire, je vous le dis, à cette période où on cherche des solutions alternatives et où on se demande comment on peut faire, où la majorité est complètement écrasée justement par le modèle dominant. Et le Larzac est pour nous une expérience extraordinaire qui mérite d'être citée, connue au niveau international.
Pierre Bruguère.
Oui, et hélas, ce qui a été fait pour le Larzac, ce n'est pas encore tellement diffusé en masse dans la société. C'est vrai que ce que je trouvais important et pourquoi le Larzac aussi est aujourd'hui partie prenante par rapport à ces journées, c'est que la lutte du Larzac, comme vous le dites, a profité d'un soutien populaire fantastique. Et que nous nous sentons, en tout cas les anciens, certainement ceux qui ont vécu la lutte, nous nous sentons aussi quand même redevables d'un retour de solidarité vis-à-vis de ceux, pas spécialement de ceux qui nous ont aidés, puisque ce n'est pas peut-être ceux-là qui ont besoin, mais d'autres gens qui luttent partout dans le monde. Et c'est vrai que l'objectif, s'il y avait une volonté politique de la part des chefs d'État, de la part du pouvoir, de l'argent, de dire, bon, mais ce qui se passe sur le Larzac, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. La Société civile des terres du Larzac, les GFA, ça a permis, ça a sauvé aussi le Larzac, ça. Mais il faudrait aussi qu'on puisse le reproduire ailleurs et qu'il y ait cette volonté politique pour le faire.
Cette volonté politique, je crois que c'est un petit peu ce qui va être suscité pendant cette semaine. On voulait faire une pause avant de continuer la discussion sur ces rencontres Gare d'Arem, la terre et la mer.
Il y avait des bois et des champs, des fruits poussaient spontanément. Et les fleuves étaient transparents avant que viennent les marchands. La terre aimait bien ses enfants et la nuit berçait les amants. On faisait l'amour tendrement avant que viennent les marchands. travaillait tout doucement. On se reposait très souvent. On allait en tapis volant visiter les pays d'Orient. Le désert était encore blanc avant que viennent les marchands. On était tous les fils du vent et les chiens n'étaient pas méchants. On pouvait rêver librement avant que viennent les marchands. On travaillait tout doucement. On se reposait très souvent.
Chanson de circonstance, Les Marchands de Georges Moustaki. Et toujours ici à Nantes, Gare d'Arènes, La Terre et la Mer. Voilà encore quelques minutes d'émission pour nous présenter un petit peu la suite et les thèmes qui vont être abordés tout au long de ces rencontres internationales. On a évoqué déjà quelques-uns. Peut-être des choses un petit peu plus précises d'organisation, Pierre Villarin.
Oui, on va passer du temps autour d'un projet qui nous importe à l'Alliance internationale intercitoyenne et puis qui implique pas mal d'autres acteurs. C'est le projet de construire une université internationale intercitoyenne. Alors, depuis de nombreuses années, on a essayé de développer des lieux de formation pour des citoyens, pour des leaders sociaux, des paysans, des pêcheurs, des gens d'ONG. On a créé une université paysanne africaine. On a créé un centre de formation de dirigeants ruraux dans le Mercosur, un centre andin de formation des leaders sociaux dans les pays andins à Quito. On a développé aussi des pratiques intéressantes en Inde, etc. Et puis on a essayé de voir qu'est-ce qui se passait dans ce thème de la formation, d'éducation populaire. On s'est rendu compte qu'il y avait des endroits où c'était en crise. En Europe, il n'y a plus beaucoup de mouvements d'éducation populaire en tant que tel. On pense que la formation formelle va former des gens et puis qu'il y a des leaders qui vont apparaître à travers aussi quelques luttes. En Afrique, il y a plus de travail de formation avec les ONG. En Amérique latine, c'est bien plus vivant. Mais bon, néanmoins, il y a beaucoup de fragilité dans ces mouvements d'éducation populaire. Et on a vu que des universités s'intéressaient à cela, en particulier en Amérique latine. Et ça, on s'est dit, pourquoi pas faire une jonction entre ces mouvements d'éducation populaire et puis des secteurs de l'université qui bougent, qui ont envie de s'impliquer pour former des citoyens. Parce qu'à l'heure actuelle, changer la société par rapport aux énormes enjeux environnementaux, de transformation des mentalités, de voir un développement autre, ça ne va pas se faire simplement avec quelques leaders bien formés dans des universités. Ça demande une participation de l'ensemble de la société et donc des citoyens. C'est un énorme enjeu au niveau mondial. Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, hein? Alors, on s'est dit, ce serait, il y a trois ans, on s'est dit, peut-être que de faire un grand chapeau au niveau international qui permettrait d'avoir, d'être un espace d'échange sur les questions de formation, d'être un espace aussi de production de connaissances nouvelles utiles pour les différents acteurs, qui permettent aussi de former des citoyens, des leaders, et ben ça sera intéressant. Et donc, on s'est lancé dans ce projet de créer une université internationale tercitoyenne. Et c'est un des objets de la rencontre. Pendant deux jours, on est en train de créer cette université. Alors, avec aussi des modules de formation sur des thèmes importants, la pêche, la mondialisation, justement le commerce international, mais aussi les enjeux sur les ressources halieutiques, sur comment vivre aussi dans la diversité, etc. Penser et agir en complexité. On est en train de travailler sur des modules de formation et on s'appuie sur un certain nombre de pôles. Par exemple, on vient d'ouvrir une chaire qui s'appelle Terre citoyenne de l'université de Valencia. On va en ouvrir une à Tirana, en Albanie, au Chili, à Santiago du Chili, et aussi en Équateur. Donc, on est dans une dynamique très, très fructueuse et intéressante de ce point de vue-là.
Et en France, c'est quelque chose en projet ?
En France, en fait, on est en train de travailler avec des gens qui sont très... qui essayent de renouveler... la formation et l'action des citoyens dans des cités, en particulier autour de Grenoble, autour de Ris-Orangis avec Miguel Benassayag, mais aussi pour l'instant, au niveau des universités, on n'a pas vraiment de contact. Il y a quelques contacts, mais ce n'est pas vraiment bien, bien implanté. Mais il y a quand même toute la dynamique sociale avec les mouvements comme la Confédération paysanne. J'espère qu'on va pouvoir faire des choses. Et puis aussi d'un certain nombre d'ONG comme le Ronjade, qui travaille sur le commerce international, ou Plancton et Innovation, qui travaille sur les questions des ressources halieutiques et du plancton, qui est déjà partie prenante de ces projets.
Alors, un thème là que je n'ai pas trop vu dans le programme de ces rencontres internationales, et pourtant l'agriculture le porte en lui, c'est le problème de l'eau. Mais pas de l'eau des mers et des rivières pour la pêche, mais il n'y a pas d'agriculture sans eau, et la maîtrise de la gestion de l'eau, la propriété, j'allais presque dire, de l'eau, et devient un problème extrêmement important. Je vais donner deux exemples. Le premier serait en Palestine. Et on sait très bien que le problème des territoires occupés et que Israël détient 90% environ de l'eau de ces territoires. Et puis un problème un peu qui vient d'arriver, qui est un peu récent, c'est vous savez que le Soudan du Sud s'est indépendantisé au Sud-Soudan et ils ont un problème pour relancer leur agriculture, c'est le problème de la maîtrise des eaux du Nil qui file directement par un canal construit par des Français directement vers le Soudan Nord. Donc est-ce que vous avez prévu dans ces rencontres internationales de réfléchir et de sur le problème de l'eau, j'allais dire bien mondial de l'humanité?
Sur le thème central de l'eau en tant que telle, non, on ne va pas vraiment focaliser normalement notre attention durant ces rencontres. Mais je vais vous dire, on avait beaucoup hésité parce qu'on devait faire la rencontre en Espagne et c'était sur ce thème-là. Bon, on s'est dit, bon, là, on va le mettre plutôt sur les questions de terre, d'espoliation. Mais par ailleurs, cette question de l'eau nous renvoie à un thème que l'on traite de façon centrale. C'est le thème de la gestion en bien commun. Parce qu'en ce moment, on est dans la tendance à dire, bon, maintenant, il faut privatiser. Hein. L'eau, on la privatise, comme ça sera mieux géré. La terre, on la privatise, ça sera mieux géré. Toutes les ressources naturelles, on dit, on les privatise. Parce qu'on dit, l'autre solution, c'est la propriété d'État. On a bien vu que donner la propriété à l'État, ça ne fonctionne pas. Bon. Mais on a oublié que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu la gestion en bien commun de beaucoup de ressources, de beaucoup de terres qui s'est réalisée. Et quand il y a des conditions intéressantes dans cette gestion, ça, c'est une solution qui est porteuse d'avenir. Et l'exemple du Larzac, d'ailleurs, sur la gestion de la société civile des terres de Larzac, est un bon exemple de ce point de vue.
Donc, lors de ces rencontres toute cette semaine, on a donc deux temps, donc un temps plutôt interne jusqu'au 14 juillet, on va dire. Et ensuite, les rencontres s'ouvrent plus largement à un public qui peut être intéressé par tous ces débats et par la rencontre des gens qui seront présents, donc avec des conférences sur différents thèmes. Avec Michel Merlet jeudi, des films documentaires aussi qui seront diffusés avec des discussions. Et je vais revenir tout de suite à ça. Dimanche, notamment, une marche symbolique sur le Larzac avec un texte d'engagement et des signatures, enfin quelque chose de très symbolique, où on relie à nouveau donc ces rencontres internationales avec l'anniversaire de la lutte du Larzac. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu, Pierre Vérin ?
Non, c'est un point important. On s'est dit aussi, c'est bien de marquer, je dirais, cet anniversaire, qui est quand même quelque chose d'important. Gagner avec une lutte de 10 années, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire des luttes sociales en France. Et ça, c'est important. Donc, on s'est dit, il faut marquer le coup. Et c'est une bonne occasion avec la soixantaine de personnes qui viennent d'une 25 ou 30 pays, d'être là et de marquer cela. Et donc, c'est dit, on va faire une marche. On va premièrement signer un texte collectivement, un texte d'engagement, un texte d'indignation sur ces situations qui nous paraissent insupportables au niveau international. On a une responsabilité, on se sent responsable et donc on s'engage. On s'engage à lutter et à se renforcer collectivement. Et deuxièmement, on appelle donc à cette marche. Il y a eu bien d'autres marches sur le Larzac. On va aller de la Blaquer, qui est un lieu historique où s'est construite une bergerie avec beaucoup de personnes pendant des années bénévolement. Et on va aller vers le Rock Pontchout, qui est un. Et on va construire un cairn. On a déjà construit une petite arche, on va construire un cairn de pierre. En apportant des pierres, les gens vont apporter des pierres de différents pays, mais aussi nous appelons à ce que les gens apportent leurs pierres de leur région, de leur petite région, pour construire un peu ce cairn, on appelle ça un Mount Joya, je crois, aussi en occitan, pour marquer un peu ce moment.
Que chacun apporte sa pierre à cette lutte contre les prédateurs fonciers. Pierre Burguère, on va terminer peut-être si vous, les uns et les autres, vous voulez faire une remarque avant la fin.
Par rapport à ce que vient de dire Pierre, là, ce qui me paraît important, et cet engagement de cette signature, enfin, l'engagement qu'on va prendre donc, dimanche, a une valeur aussi très symbolique par rapport. Enfin, plus que symbolique, c'est un renouvellement, en quelque sorte, du fameux serment que nous avons signé au tout début de la lutte, qui était un engagement de ne jamais partir, quels que soient les moyens employés pour nous chasser. Et je crois que le thème de cet engagement qu'on va reprendre dimanche, mais qu'on devra aussi peut-être diffuser beaucoup plus largement, c'est aussi renouveler cette forme d'engagement, c'est aussi donner une perspective pour des gens, parce qu'aujourd'hui, on est trop nombreux à ne pas savoir qu'est-ce qu'on peut faire, surtout individuellement. Mais collectivement, on a des possibilités.
Un mot de conclusion, Pierre Vérin ?
Juste pour dire que samedi, il y a toute une journée de débats, de conférences, et vraiment, on invite les gens à venir participer, à rencontrer les autres personnes, à écouter les témoignages et à apporter leurs propres témoignages. Et on essaiera de tirer des conclusions et des propositions.
Jean Bourliot, pour conclure, pour l'Association des populations des montagnes du monde.
Peut-être je voulais insister sur le fait que les participants, en particulier ceux des montagnes, qui se retrouvent associés à ceux de la mer, les pêcheurs, cela pourrait paraître peut-être un peu nouveau ou incongru de voir les montagnards avec les gens de la mer. Et justement, je crois que c'est très intéressant de constater à quel point, grâce à ce qui a été échangé lors des séances précédentes, des sessions précédentes de l'Alliance internationale Terre citoyenne, les gens concernés par ces milieux différents mais spécifiques, la montagne ou la mer et les paysans, avaient exactement le même langage, c'est-à-dire ils exprimaient leurs problèmes par rapport à ce qui paraissait très particulier, avec exactement les mêmes mots. Et je crois qu'ici, nous trouvons le point d'unité entre ceux qui sont confrontés exactement aux mêmes problèmes par rapport à des qui sont créés par les acteurs de ces accaparements, qui ne sont pas ceux que de la terre, mais qui sont ceux de toutes les ressources naturelles, l'eau y compris. Nous aurons quelqu'un qui va nous parler, par exemple, de la situation du Sikkim, enfin des représentants du Sikkim en Inde, où ça n'est pas un barrage, mais 26 barrages qui se succèdent et qui vont endoyer les terres. Alors nous avons l'habitude d'employer le mot paysan ruraux. Il faut aussi employer le terme indigène ou paysan indigène, parce que beaucoup maintenant des terres convoitées et dans lesquelles on va chercher les richesses sans tenir compte des populations, sont ceux aussi de ces territoires indigènes qui sont partout présents dans le monde.
Pierre Gonda.
La lutte contre l'extension du camp du Larzac a été une lutte de reconnaissance internationale. Nous avons maintenant 35 pays qui sont présents ici et qui, à nouveau, renouvellent cette expérience internationale du modèle du Larzac. Et qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau international ? Ils nous disent rester, résister, et ils nous disent renouveler les formes de lutte, renouveler les formes d'engagement. Pourquoi ? Pour un accès au territoire, pour un accès au foncier, qui en fait nous donne la permission, la possibilité de retrouver le sens vrai du territoire.
Christian Roquerolle.
Juste pour insister, pour dire que ça commence jeudi soir, 14 juillet, à 17h. Pas oublier, donc il y a une conférence et après, à 21h, il y a un film sur ce qui se passe au Mali, avec un paysan malien et une animatrice qui est d'ici, mais qui vit au Mali actuellement. Et ensuite, vendredi aussi, toute la journée. Donc non, pas toute la journée, à partir de 17h aussi. Insister. Et puis que personne n'ait peur de venir, ça rend plus intelligent et n'importe qui peut venir et on se sent bien, bien plus intelligent quand on sort de ce genre de réunion.
Merci à tous. Cette émission, c'était Gardarem, la terre et la mer. Donc, première émission d'une série de 7 sur les problématiques d'accaparement des terres, des ressources naturelles et la destruction des territoires dans le cadre des rencontres internationales Gardarem, la terre et la mer du 14 au 17 juillet à Nantes et sur le Larzac. Vous pouvez retrouver ces émissions donc du 10 au 17, de 18h30 à 19h30 en direct sur Radio Larzac ou sur Internet. Vous pouvez également télécharger ces émissions sur Radio Larzac et sur toutes les radios partenaires. Vous pouvez aussi prendre des renseignements sur le blog de Gardarem, la terre et la mer, glterremer.blogspot.com. Et pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont dans la région large de Nantes, les rencontres internationales, on l'a évoqué, s'ouvrent donc au public du 14 au 17 juillet au Relais Soleil à Nantes, vallée de la Dourbie, avec donc jeudi 14 juillet à 17h, conférence débat avec Michel Merlet, directeur de ACTER, les grands enjeux des accaparements de terres dans le monde, le rôle des multinationales et les besoins de régulation aux différents niveaux. À 21h, au même endroit, un film documentaire, Christian Roquerolle l'a évoqué, sur le thème des accaparements de terres agricoles, avec un film sur la situation au Mali avec Ibrahima Koulibaly, président de l'organisation paysanne La CNOP Mali et de Chantal Giacovetti. Vendredi 15 juillet à 17h à Nantes, au Relais Soleil toujours, une conférence débat avec José Bové sur les spoliations des communautés rurales et maritimes et avec le cas du gaz de schiste en France et à Nantes. À 21h à la ferme de Brunas au nord-ouest Larzac cette fois, film documentaire à ciel ouvert sur la lutte des Indiens Colas en Argentine avec Roger Moreau qui est impliqué dans ces luttes locales. Et samedi 16 juillet, toute la journée conférences et ateliers sur pistes stratégiques d'action et de propositions. Donc de 10h à 12h30, toujours au Relais Soleil à Nantes. Et l'après-midi de 15h à 17h30, différents ateliers parallèles sur des témoignages, la situation des différents pays. Et puis une synthèse des ateliers sera faite en fin d'après-midi. Et donc cette marche qui aura lieu dimanche 17 juillet sur le Larzac. Rendez-vous à 10h à la bergerie de la Blaquière avec un pique-nique à partir de 13h, donc à l'issue de cette marche qui se fera donc au Rock Punchout sur le site des Rochers d'Escalade, à peu près en face du hameau de Potensac. Merci à tous et à bientôt sur Radio Larzac et sur toutes les autres radios partenaires. À bientôt.